Bonjour, bienvenue pour la deuxième saison de Radio Comédie. Comment est la Réunion ?
Comédie, le festival de théâtre qui réveille le Sud, du 27 avril au 6 mai.
À l'occasion de la 8e édition du Festival Comédie, retrouvez-nous sur LFM, 95.8 sur Saint-Joseph.
Tous les jours à 17h sur LFM. Rediffusion le lendemain à midi.
Bonjour Manon.
Salut Clémentine.
Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il y a au sommaire aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on commence par une interview des comédiens qui ont joué Charlie Bauer. Ensuite, une autre interview des comédiennes qui ont joué Comment élever un ado d'appartement. Et ensuite, trois reportages.
Alors, un sur le script, Candide, et enfin, si je comprends bien, Donjon, c'est ça ?
La botte secrète de Donjon.
Toutes des pièces qui sont passées au Festival Comédie, si je crois bien, non ?
Oui, absolument, et c'est les élèves qui ont fait les reportages et qui vont nous les présenter aujourd'hui.
Super. Ah oui, ah non, mais attends, t'avais oublié quelque chose là, non ? Ah oui, la création.
Voilà, et ensuite notre moment création radiophonique.
Voilà, bah voilà, enfin un sommaire assez complexe, non ?
Et tout de suite, on retrouve Madame Lotte, la proviseure adjointe de notre lycée.
Nous sommes en direct du studio B1 au lycée Pierre Poivre.
Nous recevons la proviseure adjointe, Madame Lotte.
Elle est avec nous aujourd'hui pour nous parler de la place de l'art au lycée.
Et pour l'accueillir,
Lisa,
Sarah
et moi-même Marion.
Bonjour Madame Lotte.
Bonjour.
Pouvez-vous nous dire quels sont les différents dispositifs artistiques qui existe au lycée Pierre Poivre ?
Alors, il y en a beaucoup. Il y a des dispositifs qui relèvent de ce qu'on appelle les enseignements d'exploration en seconde, deux en art du spectacle, un en art visuel. Plusieurs options facultatives artistiques et culturelles, une option facultative en théâtre, en art plastique, en danse également. Et enfin, nous avons une série L avec deux spécialités artistiques, art plastique et théâtre pour le moment.
En tant que proviseure adjointe, quel est votre rôle et comment soutenez-vous ces différentes actions ?
Mon rôle, c'est de soutenir les initiatives des enseignants. Il y a dans ce lycée beaucoup d'enseignants qui sont des passionnés de culture, d'art, qui sont engagés à l'extérieur même dans leur vie privée et qui font entrer l'art et la culture au cœur de leurs enseignements. Donc mon rôle, c'est à la fois de soutenir leurs projets. Mon rôle, c'est aussi parfois de les inciter, de les aider à aller plus loin, c'est-à-dire à faire entrer aussi la culture et l'art au cœur même des programmes et des enseignements ordinaires et pas seulement dans les options, dans les ateliers qui se font un petit peu parfois en dehors du temps scolaire. Moi, j'aimerais qu'on approfondisse cette porte d'entrée parce que je crois beaucoup à ces voies-là pour aider les élèves dans la réussite de leurs études, mais également dans leur épanouissement personnel. Je pense que le rôle de l'école publique, c'est aussi de mettre à disposition de tous les élèves la culture et l'art, y compris pour ceux qui, dans leur famille, n'y ont pas accès. Donc ça fait partie de nos missions. On n'est pas seulement là pour faire réussir les élèves aux examens, mais aussi pour leur apporter toute une nourriture culturelle, spirituelle, dans tous ces domaines-là. Et donc, je pense que c'est une de nos missions fondamentales.
Selon vous, ces dispositifs sont-ils efficaces et quelles améliorations seraient envisageables ?
Oui, ces dispositifs sont efficaces. Je pense qu'il y a des élèves qui ont, de cette manière, trouvé leur voie, si je peux dire. C'est-à-dire que peut-être ils auraient eu du mal à réussir dans une voie qui n'aurait pas été une voie artistique et qui, là, se sont épanouis au lycée, ont réussi leurs examens et ont poursuivi leurs études dans des voies artistiques ou non, d'ailleurs. Mais à un moment, je pense que ça a pu être pour des élèves une voie de réussite. J'aimerais aussi que ça soit quelque chose qui soit peut-être généralisé ou au moins étendu également à des élèves qui n'ont pas forcément choisi une voie artistique, mais des élèves qui auraient besoin d'autres portes d'entrée pour la réussite de leurs études.
Auriez-vous une idée personnelle ou un rêve artistique, même un peu fou, pour le futur du lycée Pierre Poivre ?
Ce qu'il nous faudrait pour pouvoir aller plus loin, ce sont des infrastructures. Le rêve, il ne serait pas tellement sur un projet artistique lui-même, mais ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse offrir, dans le cadre du lycée, des conditions matérielles qui faciliteraient la réalisation des projets. On aimerait avoir une salle de théâtre, on aimerait avoir une salle de danse. Je vous assure que c'est assez fou d'imaginer qu'on puisse un jour avoir ça au lycée.
Selon vous, quelle devrait être la place de l'art dans l'éducation nationale ?
Une porte d'entrée, j'y reviens, vous allez dire que je me répète, mais je pense que c'est, voilà, ça devrait être une porte d'entrée différente pour la réussite scolaire. C'est un moyen d'être libre, l'art, et je pense que ça aussi, ça fait partie de nos missions. C'est un moyen également d'être citoyen, puisqu'il y a de l'art engagé, hein, et ça peut être un moyen d'exprimer des opinions et pas seulement des émotions. Et aussi, je maintiens, c'est aussi, à mon avis, une porte de réussite scolaire.
Eh bien, merci Madame Lotte d'avoir été avec nous.
C'était Lisa, Marion et Sarah en direct du studio B1 du lycée Pierre Poivre.
Avec Madame Lotte, proviseure adjointe pour nous parler de l'art au lycée.
Très bonne journée à tous sur Radio Comédie.
Comédie, le festival de théâtre qui réveille le Sud, du 27 avril au 6 mai.
Coucou tout le monde, ici c'est Morgane et avec moi j'ai un spécialiste de Candide, Corentin. Alors nous avons deux invités surprises aujourd'hui. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Eh bien bonjour à tous, moi c'est Marie-Hélène Goudet, comédienne, sur la pièce de Charlie Bauer ici pour le festival Comédie.
Sylvain Seguin, je suis comédien dans la pièce de théâtre Charlie Bauer est amoureux.
Alors, est-ce que pour ceux qui n'ont pas vu la pièce, vous pourriez nous raconter brièvement l'histoire ?
Charlie Bauer est un anarchiste révolutionnaire qui a fait 25 ans de prison dans les années 70 pour avoir voulu faire la révolution les armes à la main. Et dans la pièce, il rencontre René, sa future femme, par des échanges épistolaires. Ils tombent amoureux l'un de l'autre juste en s'écrivant. Ils se rencontrent d'abord au parloir. Charlie sort une première fois de prison, passe un an dehors. Il y rencontre Jacques Mesrine. Ils font un peu des bêtises, les armes à la main, parce qu'ils veulent faire péter tous les QHS de France. Les QHS, c'était les quartiers de haute sécurité. À l'époque, c'était les prisons où on enfermait vraiment en grande partie les prisonniers politiques, les gens dangereux par leur pensée, plus que des violeurs ou d'autres crimes de ce style. Il reprend 10 ans de tôle, il y étudie, c'est sa femme qui l'encourage. Et il sort de prison en 88 et jusqu'à sa mort en 2011, il a continué à faire la révolution avec les mots et les idées plutôt qu'avec les armes comme il le faisait quand il était plus jeune.
C'est très bien dit.
Merci.
Alors, Charlie Bauer a vraiment existé. C'est une vraie histoire. C'est une vraie personne.
Complètement. Oui, oui, oui. Il est décédé en 2011. Sa femme Renée est toujours bien vivante. On l'a rencontrée. On a passé beaucoup de temps avec elle. Elle a rencontré aussi l'auteur. Et l'auteur qui s'appelle Alain Guyard a écrit cette pièce en se basant sur deux autobiographies qu'a écrites Charlie Bauer. Et puis il a fait des émissions de radio sur France Inter, il a fait des documentaires, il a raconté sa vie un peu de partout. Donc l'auteur s'est inspiré vraiment de sa vie et de faits réels pour écrire cette pièce.
Pourquoi l'auteur a voulu écrire une pièce sur cet homme ?
Mais je pense qu'Alain déjà est quelqu'un qui... et quelqu'un qui écrit sur des choses déjà, qui s'engage quand il écrit. Et je pense que le choix d'écrire sur Charlie Bauer, ça a été une manière aussi pour lui de revendiquer un certain nombre de choses. Et puis aussi, je pense que cette histoire forte, viscérale, je pense qu'Alain a un talent incroyable pour mettre en mots des choses qui ne peuvent pas se dire.
Est-ce que vous pensez qu'il a essayé, à travers cette pièce, de faire passer quelque chose, une idée, quelque chose que le spectateur pourrait recevoir ?
Ah bah oui, de toute façon, c'est, je pense, un engagement politique, un engagement d'homme, un engagement... c'est une pièce de l'engagement, voilà. Et je pense qu'on ne peut que recevoir des choses de cette pièce-là, quoi. Et nous, en tant que comédiens, justement, on ne peut qu'aussi en prendre et être un vecteur, en fait, entre ce texte-là et le public. D'où aussi le choix de cette mise en scène qui a été... comme c'est une écriture épistolaire, on aurait pu s'attendre à ce que chacun soit d'un côté de la pièce et qu'on corresponde simplement à un bureau, quelque chose comme ça. Mais au tout début de la pièce, on s'adresse directement au public et le public est un vecteur, en fait. Et du coup, on commence à jouer à trois, c'est-à-dire... Charlie, René et le public.
Pour rajouter au truc, dans la volonté d'Alain, on parle d'années où la France explose, où la liberté arrive de partout. C'est post-68. Et c'est des histoires qui existaient beaucoup à l'époque. Et des révolutionnaires aujourd'hui, des indignés, des insurgés, on essaie souvent de les passer sous silence. Les médias font en sorte qu'on ne s'y intéresse pas, on fait croire que tout le monde suit le modèle capitaliste. Et dans cette pièce-là, pour Alain, il y a aussi la volonté de dire qu'aujourd'hui, on n'est pas figé, qu'on n'est pas tous des petits soldats sous la coupe du méchant capitalisme, et qu'il y a encore de l'espoir, il y a encore des gens qui réfléchissent, il y a encore des gens qui peuvent se libérer, il y a encore des peuples oppressés, et qu'en fait, il n'y a rien qui a changé depuis 68. On essaie de nous faire croire ça, mais à nous de nous bouger les fesses pour pas que ça continue comme ça. Ouais.
Moi, j'aurais une question, parce que vous avez parlé de vous quand vous jouez, mais qu'est-ce que ça vous a fait de jouer, d'incarner ce personnage ou ces figures?
C'est un plaisir autant qu'un traumatisme. C'est un peu aussi le but ultime de tout comédien, d'incarner un personnage qui est loin de ce qu'il est dans la vie. Et en plus, un personnage aussi fort et qui a existé. C'est... ouais, c'est vraiment un plaisir hallucinant. Mmh. Après, c'est... ça se retrouve dans plein de trucs dans les représentations. On a eu des amis de Charlie qui étaient en prison avec lui qui sont venus voir la pièce. On a la femme de Charlie qui est venue nous voir plusieurs fois. On a la fille de Charlie qui est venue nous voir. Et quand la fille de Charlie et René me tombe dans les bras après la fin de la représentation en me disant « j'ai revu papa », quand René lui dit « bah, ça me rappelle ce que j'ai fait dans ces années-là », quand les co-détenus de Charlie au beau mètre, des gars d'un mètre 95 avec la gueule balafrée, s'effondrent dans nos bras en nous disant « merci, merci, on a revu Charlie, on a revu René », tout est dit. Hein.
Comédie, le festival de théâtre qui réveille le Sud, du 27 avril au 6 mai.
Pour vous, à quoi sert le théâtre ?
À quoi ça sert le théâtre ?
À venir à la Réunion.
ça sert, alors, c'est une question tellement vaste et tellement importante et tellement que moi j'y répondrais en ce qui me concerne. Le théâtre, c'est un moyen d'exister, un moyen d'échanger, de partager, d'être là tous ensemble à un instant T. D'être dans le moment présent, de vibrer, de revendiquer.
Moi, j'y vois toujours, enfin, encore plus avec cette pièce, mais même dans d'autres choses, comme pour la musique, comme pour plein d'espaces. J'y vois un espace d'expression, d'expression d'idées, d'expression de liberté. Parce que j'y reviens encore, on est vraiment dans un monde où on essaie de fracasser tout ça, on bouffe du TF1, on se bouffe de la variété de merde à la radio, on essaie de rendre les gens bêtes, on essaie de les avilirisser. Et c'est le genre de lieu où on montre encore qu'il se passe des choses, qu'on peut avoir des idées, qu'on peut présenter des choses à des gens. Nous, Charlie Bauer, pour être honnête, on ne connaissait pas son histoire avant de lire cette pièce. C'est aussi important pour nous d'arriver à faire connaître Charlie Bauer aux gens qui viennent voir notre pièce. Et quand des gens un mois après nous disent bah, du coup on a acheté ses bouquins, on a regardé des reportages sur lui et on a réfléchi, bah, on a tout gagné.
C'était fantastique.
Bah, merci.
Merci à vous.
Bonjour, bienvenue pour la deuxième saison de Radio Comédie. Comment est la Réunion ?
Comédie, le festival de théâtre qui réveille le Sud, du 27 avril au 6 mai.
Retrouvez-nous sur LFM, 95.8 sur Saint-Joseph.
Tous les jours à 17h sur LFM. Rediffusion le lendemain à midi.
Salut, c'est Corentin, je suis en première ES au lycée Pierre Poivre. Je suis parti voir pour vous la pièce de théâtre Candide, dans la salle Blanche-Pierson à Saint-Joseph. D'abord, je tiens à remercier les gens qui ont pensé au coussin, mon postérieur et sauf grâce à vous. Le Candide que je suis parti voir était une pièce de théâtre vivante où le seul acteur, lui aussi vivant, n'hésite pas à faire participer le public et j'en ai fait les frais. La naïveté n'apporte rien de très bon à ce candeur de Candide. Pour clôturer ma courte chronique, je dirais que lire Candide et voir une pièce de théâtre sur Candide sont deux choses différentes et que j'ai préféré le voir que de le lire.
Merci Corentin. Bon, la prochaine fois, tu nous fais 3 lignes de plus ?
Pas de problème.
Bienvenue sur Radio Comédie.
Qu'est-ce que vous avez pensé de la représentation de ce soir ? Quand vous avez lu le livret et que vous avez vu que c'était un monologue, vous n'avez pas eu peur ? Enfin, peur de vous ennuyer, disons ?
Ah, j'ai pas lu le livret. Ah bah.
Ma question tombe à l'eau. Et sinon, l'artiste interagissait beaucoup avec les spectateurs. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous ?
Bah, ça lui permettait de prendre plus facilement vie des différents personnages de la pièce, quoi. Voilà.
Merci madame, bonne soirée.
Merci.
Et vous, en tant que comédien, qu'est-ce que vous avez pensé de la représentation de ce soir?
J'ai eu du mal au début, après c'est parti.
On était un bon public, comment, ce soir?
Oui, qui participait bien, qui était à l'écoute. Tous ceux que j'ai pris ont accepté de venir sur le plateau avec moi. Ils avaient l'air heureux, mouillés, mais heureux. Donc voilà, tout va bien.
Oui, c'est... Coco, t'as un truc à dire?
Moi, j'avais une autre question. Est-ce que des fois, le public aurait...
Refuse?
Oui.
Jamais. Jamais. Je fais toujours attention à ceux à qui je prends. C'est pour ça que j'ai la lumière. Comme ça, je vois dans le regard si c'est viable ou pas. Et il y a des gens qui ont envie de venir. Et j'évite de les prendre.
C'est vous qui avez fait l'écriture, la mise en scène? Parce que j'ai remarqué que c'était assez fidèle au livre, il y avait des passages que j'avais déjà lus.
Oui, c'est une adaptation très fidèle. J'ai juste coupé le nègre de Suriname, parce que c'est étudié dans toutes les classes, donc j'y suis assez pas la peine.
Mais, sauf dans la nôtre.
Oui. Mais oui, j'ai essayé d'être le plus fidèle possible. En fait, si je l'ai monté, c'est parce que quand je l'ai lu, moi, à l'âge que j'avais, ça m'a fait un peu... ça m'a fait chier, quoi. Et après, le temps passant, je me suis dit, tiens, il y a peut-être une autre façon de le rendre plus vivant. Voilà.
Et vous, monsieur Moreau, qu'est-ce que vous avez pensé de la représentation de ce soir?
Ah, ta gueule!
Eh ben écoutez, moi... Coco, attends. On coupe ça en montage, on la refait!
Et vous, monsieur Moreau, qu'est-ce que vous avez pensé de la représentation ce soir?
Eh ben voyez-vous, en fait, j'ai trouvé ça vraiment très instructif, très sympathique. Enfin, ça respectait le livre tout en étant divertissant. Et j'avais peur d'être légèrement ennuyé par ce monologue. Et au final, ça s'est révélé très dynamique et très sympathique.
Merci bien, monsieur Moreau.
Alors nous retrouvons Morgane qui vient nous faire part de sa chronique de la pièce La botte secrète de Don Juan de la compagnie AFAG. Alors Morgane, dis-nous tes impressions.
Ben franchement, je saurais pas exactement vous l'écrire parce que je crois que j'ai été émerveillée, transportée et il n'y a pas d'autre mot quoi, c'était fantastique.
Mais en étant plus précis.
Je pourrais pas vraiment aller dans les détails parce que comme le titre le dit, botte secrète. Si je vous décris tous les détails, ça serait gâcher une partie du spectacle, je pense. Et franchement, gâcher un plaisir d'une pièce de cette qualité, franchement, je pense pas que c'est le but d'une chronique.
D'accord, et vous dites que vous avez été transporté, donc, c'est-à-dire le jeu d'acteur, la mise en scène
Je dirais plutôt que c'est un ensemble. Déjà, les costumes étaient superbes. Mais je dirais encore plus que c'est un enchaînement de surprises, de combats, inattendus, donc...
Tout est à chaque fois dans la surprise.
Voilà, et c'est ce qui va faire que nous, spectateurs, on va toujours être là, on est toujours là, concentrés à regarder ce qui va se passer, que ce soit dans les paroles, où on va chercher qu'est-ce qu'il a voulu dire, ou même comprendre, et là on va faire... Oh, cet acteur, il joue super bien, c'est totalement vrai.
Et vous qui étiez dans la salle hier, est-ce que vous trouvez que cette pièce est accessible à tous? Est-ce qu'il y avait des familles ou alors est-ce que c'était plus un public d'adultes?
Il y avait un peu de tout. J'ai vu des enfants, j'ai vu donc des adultes. Mais je pense que oui, c'est une pièce qui, comme je disais, est un mélange de plusieurs choses. Donc elle est accessible à tous, de ce fait.
Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose?
Moi, j'aimerais bien dire quelque chose sur les acteurs. Je dirais même qu'ils étaient excellents, surprenants et tout aussi dynamiques que leur comédie.
Eh bien, merci beaucoup Morgane de nous avoir fait partager ta chronique sur le spectacle La botte secrète de Don Juan de la compagnie AFAG.
Merci et franchement, pour les gens qui nous écoutent, je vous conseille d'y aller.
Bonsoir, pourrais-je vous demander ce que vous attendez de cette pièce?
Ben, j'ai lu brièvement le résumé. J'ai l'impression que ça a l'air d'être une comédie, donc j'attends de rire.
D'accord, merci. Franchement, ils étaient très drôles et ils jouaient très bien leur spectacle. Ils rimaient à chaque fois, ce qui était incroyable. Et je pense qu'il faut une bonne dose de courage pour oser rimer à chaque phrase. Surtout le type qui jouait dans les rangs, là.
Ben, j'ai beaucoup aimé. Au début, je pensais que c'était un spectacle normal, mais vu que j'avais pas vu le résumé. Et ensuite... J'aime bien, c'est inattendu.
C'est Julie, avec Charlie
et Angéline.
Cette année, le Festival Comédie vous propose
La botte secrète de Don Juan.
Combien de temps et comment avez-vous mis en scène cette pièce et cela a-t-il été difficile pour vous?
D'abord, il y a la phase d'écriture. Le spectacle, je l'ai écrit en un mois et demi, après. Et ensuite, la mise en scène. Il y a beaucoup, beaucoup de combats dans le spectacle. et des combats qui sont assez bien travaillés. Enfin, on essaie de les faire le mieux possible, ce qui fait qu'il y a un gros temps d'apprentissage. Au moment où on monte le spectacle, dans la compagnie, personne ne se bat à l'épée. Donc c'est moi qui forme tous les comédiens, donc la création prend à peu près 6 mois dessus. On a travaillé au début avec des metteurs en scène, mais assez rapidement on n'en a plus eu, parce que on n'aime pas les metteurs en scène et ils n'aiment pas travailler avec nous, pour diverses raisons. Nous on aime bien travailler vraiment ensemble, en groupe, et puis qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit à l'extérieur en fait du travail, qu'il y ait quelqu'un qui soit en jugement, c'est-à-dire qu'on est tous, on essaie tous de pousser le spectacle dans le mieux possible, sans se dire il y en a un qui va chapeauter ça, il y en a un qui a, enfin on n'a pas du tout envie de ça. Et puis je pense que pour les metteurs en scène c'était aussi très très compliqué de m'avoir comme personnage principal, enfin dans le rôle principal, de du fait que c'était moi qui mettais en scène les combats et c'était moi qui avais écrit le texte. Je pense que c'était super compliqué, donc les deux réunis ça fait qu'on a perdu nos metteurs en scène, et on est très très content depuis de plus en avoir, mais on était très très contents de travailler avec eux.
Alors pour conclure, je vous demanderai simplement si vous êtes déjà venu à Comédie, si cela vous a plu et si vous comptez revenir.
Alors c'est la première fois qu'on vient à Comédie. On espère bien que ce ne sera pas la dernière, parce que moi vraiment je suis très très content. Là j'ai chopé une énorme grippe locale et franchement je ne suis pas déçu, quoi. Je passe toutes mes journées au lit. Alors j'espère pouvoir revenir une année prochaine pour aller visiter l'île.
D'accord, merci beaucoup. C'était Grégory de la compagnie AFAG qui ont présenté La botte secrète de Don Juan.
Bienvenue sur Radio Comédie.
Hier soir, Amy et Roman sont montés à la Plaine des Grecs pour voir la pièce Comment élever un ado d'appartement. Cette pièce-là, elle est jouée par des comédiennes amateurs, des lycéennes, et elles nous font l'honneur d'être là avec nous. Elles s'appellent Mathilde et Alice. Et avant de les écouter, on retrouve tout d'abord Brigitte Grasset, leur metteur en scène.
Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, votre compagnie.
Bonjour, donc je suis Brigitte Grasset, je suis dans une compagnie qui s'appelle Culture Pays. Je suis à la fois comédienne et puis metteur en scène, et puis j'interviens dans des ateliers, comme les ateliers de Saint-Joseph, dans lesquels j'ai découvert les trois comédiennes qui jouent dans la pièce « Comment élever un ado d'appartement ». Voilà, donc cette pièce a été tirée d'un livre qui m'a plu, et quand je l'ai présenté aux trois jeunes filles, elles ont été emballées et on a trouvé au fur et à mesure des points de mise en scène ensemble. Et voilà, et au bout d'un an de travail, pas tout à fait un an de travail, de 6 mois de travail, j'ai trouvé que le rendu de cette pièce pouvait peut-être prétendre à être présenté à un concours. Et c'est pour cette raison que j'ai présenté les trois jeunes filles, qui étaient les plus jeunes d'ailleurs de la sélection de La Réunion. On n'est même pas allé à la distribution des prix, parce que bon, on ne s'y attendait pas, on ne pensait pas que des jeunes filles aussi jeunes pouvaient être récompensées, et puis non, elles ont eu le premier prix.
Et que pensez-vous du public de la Plaine des Grecs ?
Ah ben c'est un public très chaleureux, très sympathique, je crois que ça les a beaucoup portés. Voilà, non, c'était vraiment très sympathique, hein, vraiment.
On pourrait en savoir plus sur les ateliers que vous organisez ?
Oui, donc en fait j'ai des ateliers dans le cadre de l'association. J'ai un atelier au tampon avec les tout-petits, les 5 ans, 10 ans. Après j'ai 2 ateliers à Saint-Joseph, donc c'est sous couvert de comédie d'ailleurs. Donc la troupe s'appelle le Méli-Mélo de Saint-Jo, et là j'ai des ados. Et des adultes que je connais déjà depuis 2-3 ans et qui ont déjà aussi gagné le concours de théâtre amateur avec une pièce qui s'appelait « À mon âge, je me cache encore pour fumer ». En fait, Saint-Jo a gagné 2 fois, une fois avec les adultes et la deuxième fois avec les adultes.
Une dernière petite question. Pour vous, qu'est-ce que ça apporte aux ados de faire du théâtre ou de voir du théâtre, d'en faire et d'en voir ?
Qu'est-ce que ça apporte ? Ça apporte tellement de choses. C'est difficile en quelques phrases. Je ne crois pas qu'on puisse combattre la timidité. Hein. Ça, c'est... Mais je pense que déjà au niveau culture, faire du théâtre, c'est... Et puis l'appréhension d'un groupe, hein, au niveau de la solidarité, l'écoute et jouer avec les autres, c'est magnifique. Quoi. C'est un art difficile. C'est peut-être pas, ça ne va pas les encourager, mais je le définis comme quelque chose de difficile et un travail, un gros travail dans lequel on peut s'amuser, mais il y a beaucoup de travail, beaucoup de stress, parce que quand on passe sur un plateau, il y a un gros stress. Et puis une fois qu'on est sur le plateau, On a les mots des autres, hein, d'un auteur par exemple, qu'on arrive à s'approprier un personnage. C'est que du bonheur. Quoi.
Merci beaucoup pour d'avoir répondu à nos questions. Oui. Bonne soirée à vous.
Merci.
Comédie, le festival de théâtre qui réveille le Sud, du 27 avril au 6 mai.
C'est une troupe d'amateurs, ils l'ont dit à la fin. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je les trouve parfaites. J'ai vu beaucoup de pièces faites par des troupes professionnelles et je les ai trouvées vraiment, vraiment d'un très bon niveau. Je recommande vraiment cette pièce à tout le monde. Des plus jeunes aux plus âgés, je pense que voilà, on va tous rigoler, c'est excellent. Venez voir cette troupe, elle est vraiment très très bonne.
Le fait que ce soit une troupe amateur, vous en pensez quoi?
Je pense pour que ça soit une troupe amateur, c'est ils se défendent très bien, ils arrivent à très bien jouer, ils sont vrais, franchement, ils sont très agréables et ils sont vivants, donc je le conseille.
Bienvenue sur Radio Comédie.
Alors bonjour Mathilde et Alice.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous et nous avons préparé quelques questions.
Vous avez pu entendre certaines réactions du public, alors qu'est-ce que vous en pensez? Ça encourage, n'est-ce pas?
C'est sûr, ça fait plaisir à entendre.
Bah oui, parce que enfin, nous on pensait qu'ils allaient appréhender le côté amateur et tout. Et bon, c'est vrai, on est des amatrices, mais entendre ça, franchement, ça donne encore plus envie de la rejouer, de la re-rejouer et de faire partager notre passion.
Je suppose que pour cette pièce, il a fallu beaucoup de travail, non?
Oui, énormément. À partir du texte, bah, on propose des idées, Brigitte elle nous met dans l'ambiance et nous on propose des petites idées de mise en scène et tout, et c'est vraiment un travail de groupe et franchement c'est
on se concerte super. Chacune à chaque fois, chacune propose son idée, l'autre, chacune donne son avis en fait.
En tant que comédienne, quel passage préférez-vous dans ce spectacle?
C'est difficile à dire parce qu'on aime à peu près tous les passages, parce qu'à chaque fois c'est un vrai bonheur de pouvoir jouer cette pièce. D'ailleurs, des fois on a envie de rigoler quand on voit les réactions du public, le public rire et tout, franchement ça...
Des fois on se met à rire sur scène mais on essaie de le cacher, c'est pas toujours facile.
Quelles ont été vos appréhensions avant la pièce, avant la représentation d'hier soir à la Plaine des Grecs?
Bah déjà, on s'attendait à pas avoir autant de monde. On croyait que vraiment, il n'y allait pas avoir grand monde, parce que la Plaine des Grecs, c'est très loin.
Et la salle n'était pas facile à trouver non plus. Du coup, on se disait, les gens montaient jusqu'en haut, trouvaient la salle.
Surtout qu'il y avait des super bons spectacles, comme les châteaux, les scripts. Donc on s'est dit, bon, bah... Peut-être que ça va marcher ou peut-être que ça va pas marcher. Et finalement, bah, la salle était pleine.
Alors, je vais vous faire réécouter certaines réactions des spectateurs qu'on a enregistrées hier à la Plaine des Grecs pour vous faire réagir.
Est-ce que vous vous êtes reconnue dans la pièce?
Oui, tout à fait, 100%. Je me suis bien reconnue, que ce soit pour la salle de bain, pour la chambre, le déodorant, le parfum, le maquillage, le mini-short.
Voilà. Oui, bah, j'ai retrouvé ma fille dans toutes les scènes. Voilà, elle est 100% ado et la pièce lui correspond vraiment. Je pense que tous les parents vont s'y retrouver à un moment ou à un autre dans la pièce. Voilà, voilà, on se sent moins seul hein, à élever un ado. Voilà, on se sent un peu plus réconforté en se disant que ben, finalement ils sont tous pareils. Je pensais avoir l'unique ado à la maison et donc voilà, non, ça me réconforte. Merci beaucoup d'avoir fait cette pièce.
Oui, j'ai un ado chez moi et cette pièce je l'ai déjà vue 3 fois et j'ai trouvé sympa, les filles très vivantes et franchement c'était chouette. Tu trouves quand même des traits de caractère chez toi quand même? Non, maman en plus elle en a 2, donc franchement je pense qu'avec 2 à la maison, franchement on doit quand même trouver quelques petit point commun, non?
Bah moi en tant qu'adolescente, bah, j'ai beaucoup aimé cette pièce, ça me correspond pas totalement, mais voilà quoi. C'est vrai que je range pas forcément la salle de bain, que ma chambre n'est pas forcément vraiment rangée, mais voilà, ça me correspond mais à moitié.
Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'en ai pensé que c'était super bien et que c'est vrai que ça reflète les ados en général.
À quoi ça sert le théâtre?
Le théâtre sert principalement à faire passer une idée. Oui, bah par exemple là pour les ados, bah, ça fait passer un message aux parents comme quoi on est des ados. Pas des adultes.
Alors justement, que pensez-vous de ces réactions?
Bah, c'est super qu'ils se soient reconnus déjà, parce que c'est le but de la pièce. Et puis bah, pour les parents, bah, si ça peut les aider, bah, c'est le but aussi. Parce que
c'est le manuel de survie.
Oui, voilà.
Il faut dire que vous aussi, vous êtes adolescente. Est-ce que vous vous êtes reconnue dans votre propre pièce ?
Très souvent, oui. C'est pour ça qu'on a tant de plaisir à jouer cette pièce, parce qu'en même temps, aussi, on caricature beaucoup.
On se critique nous-mêmes, en fait. C'est une autocritique sur les adolescents. Donc, on doit jouer vraiment comme si on était des adultes qui critiquent les adolescents, alors qu'en fait, on est nous-mêmes des adolescents.
Mathilde, tu parlais du but de la pièce. Est-ce qu'il y a un message derrière toute cette mise en scène ?
Un message précis aux parents ou même aux adolescents ?
Eh ben, courage aux parents.
Un ado, c'est dur à élever. Voilà, c'est chiant.
En même temps, les ados, il faut qu'ils réfléchissent après avoir vu cette pièce. En fait, c'est leur miroir, donc finalement, s'ils peuvent changer ou pas, améliorer ou pas, c'est comme s'ils se voyaient dans un miroir, en fait.
Pourquoi aborder l'adolescence de cette manière, de manière autocritique ?
Et de manière comique, surtout ?
Eh bien, parce que vaut mieux rire qu'en pleurer. Hein, parce que, bon, les parents, c'est vrai que des fois, ils peuvent en pleurer, hein, parce que c'est vrai que nous, les ados, on est un peu... Des bêtes sauvages et cruelles, hein, à quelques moments. Parce qu'en fait, c'est ça, dans la pièce, les ados sont un peu décrits comme des petits animaux, finalement,
à élever. Des bêtes sauvages.
Pour ça, l'élevage de l'adolescent exige une ténacité, une obstination dans l'effort. Donc voilà.
Alors, j'aimerais vous demander ce que c'est de travailler avec Brigitte. Comment ça se passe ? Comment vous vous organisez
Brigitte, c'est un ange. Elle est adorable et c'est vraiment un bonheur de travailler avec elle. Parce qu'à chaque fois, à chaque cours, on rigole super bien et tout. Et il y a toujours une bonne ambiance.
Franchement, elle a vraiment fait un maximum pour qu'on joue. Elle se donne à fond pour qu'on joue. Elle se donne à fond pour qu'on se fasse plaisir. Elle nous encourage. Elle n'est pas dure. Elle est vraiment super sympathique avec nous.
Vous avez parlé du concours en métropole, vous pouvez nous en dire plus ?
Eh bien, le concours Festea, c'est le concours... en métropole, c'est le concours national de théâtre amateur. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 19 régions qui sont en compétition. Ils présentent une pièce, il y a le jury. À la fin, il y a un entretien avec le jury et puis la remise des prix.
Et nous y sommes allés avec Mathilde et Cathy, sans penser d'ailleurs qu'on pourrait y aller. Et on était les plus jeunes, donc ça nous a fait peur au début. On s'est dit, plus jeunes, dans un concours comme ça. Mais ça nous a énormément plu. Je pense que c'est une expérience que tout le monde ne peut pas vivre et qu'on a vraiment eu de la chance.
Alors, pensez-vous continuer dans le métier du théâtre ?
Moi, je n'en sais rien encore. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire plus tard. Moi, je suis encore au collège, donc je réfléchis encore.
Ouais, moi, j'aimerais vraiment continuer parce que c'est vraiment une passion depuis toute petite. Et franchement, c'est un bonheur à chaque fois de monter sur scène. Et par exemple, quand on était en métropole, à chaque fois, on faisait des salles pleines. Et plus il y a de public, plus ça motive. Et puis, le théâtre, c'est un partage aussi. C'est le partage d'une passion. Et quand c'est vraiment bien joué, le public, il le ressent tout de suite. Et c'est ça, franchement, qui est merveilleux dans cet art.
Pour vous, à quoi sert le théâtre ?
Le théâtre, c'est se découvrir aussi. C'est pouvoir s'éveiller dans un nouvel art. C'est pouvoir s'exprimer. C'est pouvoir incarner plusieurs personnages. Comment expliquer ça ? Quand on incarne un personnage, il faut toujours retrouver ce qu'on est après. Et puis découvrir de nouveaux personnages, franchement, c'est vraiment génial. Surtout dans la pièce où on peut en faire plusieurs.
Franchement, c'est une expérience qui change vraiment une personne. Donc on découvre nous, mais sous un autre jour. Et après, on s'en sert chaque jour au quotidien pour tout ce qu'on fait dans la vie. Rien que pour rencontrer des nouvelles personnes, déjà, ça nous donne du courage d'aller les voir. Quand on veut même s'adresser pendant les cours à un professeur, quand on n'ose pas, ça, on se dit allez, c'est comme une pièce de théâtre. On monte.
On ose.
Voilà, on ose.
On ose.
Et pour terminer, est-ce que vous avez un dernier petit mot à faire passer pour les auditeurs Radio Comédie ?
Déjà, un grand merci à toute l'équipe de Comédie et surtout au président qui nous a permis de pouvoir jouer parce que c'était notre premier Comédie et c'est vraiment une expérience unique. Donc, merci beaucoup.
En sachant qu'on était amateurs, on était quand même très contents de pouvoir jouer à Comédie de rencontrer, rien que ça, de pouvoir rencontrer aussi les autres personnes qui jouaient d'autres spectacles. Ça nous a fait un grand plaisir et merci vraiment à Comédie pour ce festival, car tout le monde n'a pas la chance de pouvoir avoir des spectacles, alors que là, c'est à portée de main. C'est vraiment, ça donne vraiment envie d'ailleurs de faire du théâtre. Après ça, je pense qu'il y a des gens qui vont faire du théâtre, je sais pas. Mais merci vraiment, Comédie.
En tout cas, merci beaucoup d'être venus, Mathilde et Alice, et on espère vous retrouver bientôt dans un autre festival Comédie.
Merci à vous. Au revoir.
Bienvenue sur Radio Comédie.
Alors justement, Romane, tu nous as fait une petite critique. Un petit mot pour nos chers auditeurs ?
Chers auditeurs, si vous pensez connaître le pire ado qui soit, le spectacle « Comment élever un ado d'appartement » est fait pour vous. Il va non seulement vous rassurer en vous apprenant qu'il n'est pas le seul de cette espèce, mais il va aussi vous apprendre à réagir face à lui. Du territoire à la nourriture en passant par le passage à la salle de bain, vous serez paré pour n'importe quelle situation. Nos conférencières auront même pour cela, grâce à leur grand talent d'imitatrice, pris des exemples types pour nous mettre en situation. En bref, un spectacle vivant où vous pourrez peut-être reconnaître certaines personnes dans votre entourage.
Bienvenue sur Radio Comédie.
Comédie, le festival de théâtre qui réveille le Sud, du 27 avril au 6 mai.
À l'occasion de la 8e édition du Festival Comédie, retrouvez-nous sur LFM, 95.8 sur Saint-Joseph.
Tous les jours à 17h sur LFM. Rediffusion le lendemain à midi.
Bonjour, c'est Mélissa et Lindsay en direct de la Maison pour tous de Jean Petit. Pour la pièce, le script.
Ils jouent beaucoup avec les mimes et en fait les comédiens interpellent beaucoup les enfants à participer avec eux dans l'histoire.
Ben, c'est pour ma petite fille, elle était partie avec l'école et elle a dit qu'elle était bien, ben on va lui faire un tour, voir avec elle.
Vous appréciez le fait que le comédie fait les pièces de théâtre dans Léo ?
Oui, beaucoup. C'est la première fois sur Jean Petit en plus et il permet aux gens que les pas en disponibilité trop de sortir, de découvrir autre chose que les bois de non Jean Petit.
Pourquoi a décidé de venir voir cette pièce-là ?
Parce que Mie aime la magie, Mie adore ça.
Et où habite Jean Petit ?
Oui, et les chouettes qu'il fait à Jean Petit aussi, les pièces de théâtre, hein, les très chouettes.
C'est marqué dans le script, pardonnez-moi, c'est marqué dans le script, ce n'est pas... c'est marqué dans le script, le mouvement numéro 1. Le mouvement numéro 1, ah, ici, là.
Bonsoir, je m'appelle Rémi Larousse, en fait je suis un artiste illusionniste et également mentaliste, c'est-à-dire que je lis dans l'esprit des spectateurs.
Pour ceux qui n'ont pas vu le spectacle, pouvez-vous le résumer en quelques mots ?
Oui, ça raconte l'histoire en fait d'un comédien qui reçoit en fait un script, il ne connaît pas du tout l'illusionnisme et le mentalisme et en déchiffrant ce script, en le décryptant, il va pouvoir rentrer dans l'esprit des spectateurs et lire dans leurs pensées, donc c'est le point de départ du spectacle. Et il fait ça avec la salle parce que c'est un spectacle complètement interactif.
Ils disent dans le texte que les magiciens, les illusionnistes ne font que jouer un rôle. En fait, c'est un travail de comédien. C'est écrit ici, là. Le magicien est un acteur qui joue le rôle d'un magicien et qui, à son tour, produit l'illusion d'un magicien jouant l'acteur. Et, évidemment, c'est limpide. Sauf que le texte, c'est pas un texte comme au théâtre. Il n'y a pas des répliques à apprendre par cœur, c'est plutôt des façons de regarder les gens.
Pourquoi le choix de lier le théâtre à la magie ?
Eh bien parce qu'en fait la magie est un art très ancien en fait, qui date de l'Antiquité et qui pendant un siècle, je dirais au XXe siècle, a stagné. Ça a été très difficile de renouveler cette discipline. Et comme le cirque par exemple, avec le nouveau cirque où les marionnettes ont connu une évolution, l'idée c'était de se dire, bah, tiens, comment on peut innover pour faire évoluer la magie. Et donc mon idée a été de théâtraliser très fortement avec une trame narrative le spectacle et d'avoir un personnage, un véritable personnage sur scène qui joue, qui parfois n'y arrive pas, qui a besoin des spectateurs. Donc voilà, c'est vraiment pour faire avancer la discipline artistique.
Et ça doit être impressionnant d'être face à tous ces spectateurs. Qu'est-ce que vous ressentez lors des spectacles ?
Ah bah c'est du plaisir parce qu'en fait le spectacle ne peut pas se faire sans le public. Et surtout, chaque soir c'est différent parce que ce spectacle j'ai joué beaucoup de fois. À chaque fois je pensais que j'allais commencer à anticiper, à connaître les réactions. Et à chaque fois il y a des choses imprévues qui se passent. Et c'est ça le plaisir avec ce spectacle, c'est qu'on s'ennuie jamais à chaque représentation.
Et un jeu de cartes. Une boule de voyante et un jeu de cartes. Regardons par ici, regardons par là. une boule de voyanté, un jeu de cartes. Et vous, monsieur, dites-moi, les cartes sont bien différentes, vous confirmez ?
Oui, je confirme.
Oui ?
Vous pouvez nous raconter une anecdote marrante avec les spectateurs ?
Il y a toujours plein de choses très étranges qui se passent. Une fois, récemment, il y a un spectateur qui, en fait, était tellement impressionné de ce qu'il avait vécu qu'il s'est pratiquement évanoui sur scène, c'est-à-dire j'ai dû lui apporter de l'eau, etc. En fait, il était sous le choc en fait, de ce qu'il avait vécu. Ça a été très étonnant quand même, très étonnant sur scène, mais très rigolo après quand on s'est revu dans les coulisses.
Et dans la vie, vous faites du théâtre ou de la magie ?
Alors en fait, moi j'ai fait les deux en parallèle depuis que je suis petit, je suis passionné dès l'âge de 8-9 ans, j'étais passionné par l'illusionnisme, le cirque, et j'ai pris des cours de théâtre, donc j'ai joué des pièces comme L'Avare ou Le Bourgeois Gentilhomme ou Le Cid, et ça s'est fait naturellement, c'est-à-dire comme j'aimais beaucoup le théâtre et les codes du théâtre, je les ai naturellement intégrés dans le spectacle de magie.
Je vais feuilleter le jeu et vous allez m'arrêter, me dire stop quand vous le voulez.
Stop
ici. Mémorisez la carte sur laquelle vous avez coupé. Personne à part vous ne doit connaître cette carte. Vous l'avez en tête? Gravez-la dans votre esprit.
C'est bon.
Vous l'avez? Parfait.
Qu'est-ce que ça apporte à la magie d'apporter du théâtre dedans?
Eh bien, en fait, ça permet notamment de casser l'image du magicien qui est omnipotent, qui sait tout faire et qui, finalement, en sait toujours plus que le public. Et quand, des fois, parce que c'est notre réaction, quand on voit un tour de magie, il y a une certaine tension, il y a parfois un certain agacement, il y a la surprise, mais il y a l'agacement. Et le fait, par exemple, de créer un personnage qui s'appuie sur un script, qui s'appuie sur un texte, eh bien, il est obligé de passer par quelque chose et il arrive au début du spectacle au même niveau que les spectateurs. Donc, toute l'idée, c'était de casser cette image du magicien qu'on a, il peut faire voler des objets, transformer un peu omnipotent, en créant un vrai personnage avec ses faiblesses, par exemple.
3 de cœur, 10 de trèfle, valet de carreau. 3 de cœur, 10 de trèfle, valet de carreau. Si Marie-Laure a annoncé votre carte, asseyez-vous.
À quoi ça sert le théâtre et la magie pour vous ?
Alors, une réponse... je pense qui est classique, c'est déjà l'évasion, c'est-à-dire que ça sert à s'échapper de nos quotidiens un peu compliqués. Et je pense que l'illusionnisme en particulier, parfois est un outil pour remettre en cause des certitudes, parfois est un outil pour remettre en cause et nous faire réfléchir sur notre rationalité, notre vision du monde. Alors on sait qu'il y a des trucages, on sait qu'il y a des méthodes, des secrets, mais parfois j'ai certains spectateurs qui me disent « Ah mais c'est intéressant, je réfléchis après le spectacle », et ils me disent « Ah ben ça a transformé la façon, je vois les choses différemment, je suis moins, peut-être moins rationnel, je laisse passer, j'essaie d'identifier des moments un peu, je dirais, des choses qui font plus rêver. Je suis plus attentif à ces choses-là, etc. Et donc, je pense que la magie sert aussi à faire ça, à nous questionner. Parce que c'est vrai que quand on voit un magicien, on doute, quoi. Et parfois, le doute... Alors, il ne faut pas douter tout le temps, mais parfois, le doute, c'est utile aussi pour remettre en cause nos certitudes.
Comédie, le festival de théâtre qui réveille le Sud, du 27 avril au 6 mai.
Comme vous le savez, Comédie, c'est plus de 160 représentations et donc certaines d'entre elles sont décentralisées, comme par exemple à la Plaine des Grègues ou encore à Jean Petit.
Et justement, Mélissa est partie voir le script dans les Hauts de Saint-Joseph, une pièce de théâtre qui mélange théâtre et magie. Donc Mélissa, qu'est-ce que t'en as pensé ?
Ben franchement, moi j'ai adoré cette pièce, hein. J'étais vraiment époustouflée, j'ai pas de mots pour expliquer ce que j'ai ressenti. J'ai connu beaucoup d'émotions, genre j'étais émerveillée parce que le comédien par exemple, il a réussi à soulever une table, mais on sait pas comment. J'ai été agacée aussi de pas savoir comment il réalisait ses tours et donc voilà. Hein.
Ça fait quoi le mélange théâtre et magie ?
Pour moi, je pense que mélanger le théâtre et la magie, c'est vraiment une bonne idée parce que c'est deux arts qui se complètent parfaitement. Vu que quand on pense au théâtre, moi personnellement, je m'ennuie beaucoup. Et avec la magie, je trouve que ça donne du peps, c'est mieux.
Et justement, en quoi tu trouves ce genre de pièce plus accessible ?
Comme a dit le comédien dans son interview, quand... Le fait de mélanger le théâtre et la magie, ça casse un peu le mythe du magicien qui est plutôt arrogant et le mythe du théâtre qui est plutôt littéraire et voilà.
Et du coup, comment c'était l'ambiance dans la salle à Jean Petit ?
Eh ben, c'était une très bonne ambiance. Il y avait même des gens qui étaient assis par terre pour avoir leur place, pour ne pas rater le spectacle. Et moi, qui a participé dans le spectacle, j'étais vraiment émerveillée parce que, et même
impressionnée
parce que le comédien me demande de choisir une ville. Il demande à un autre garçon de choisir... Non, il me demande un pays et il demande à un autre garçon de choisir une ville. Puis une autre fille de choisir un prénom. Et la fille qui choisit le prénom, elle a dû ouvrir un papier qui était plié en 8. Et sur le papier, il y avait écrit le pays que j'ai choisi, la ville que le petit garçon a choisi et le prénom que la fille avait choisi.
Eh bien, ce que tu nous décris là est incroyable. Voilà. Donc, quelles étaient justement les réactions du public lors de ce spectacle ?
Ben, moi, personnellement, j'étais assis à côté de plein d'enfants qui, eux, avaient presque envie d'aller sur scène tout le temps. Ils étaient vraiment captivés par ce que le comédien faisait.
Donc, il y a dû avoir beaucoup de familles, beaucoup d'enfants ?
Ben, moi, ce que j'ai vu, oui, il y avait que des familles, personne n'est venu tout seul. S'il y avait des parents, il y avait leurs enfants. Et s'il y avait des enfants, il y avait leurs parents.
Et pour finir cette chronique sur le script, Mélissa, peux-tu nous dire un mot ?
Ben, ce que j'ai à dire, c'est que Rémi Larousse a su nous emporter dans un rêve. Et que sans lui, on n'aurait pas pu être dans une aussi bonne ambiance. Comme lui, il n'aurait pas pu réaliser son spectacle sans nous.
Donc merci Mélissa d'être venue nous voir au studio des 4 pour nous parler d'un spectacle que tu as vu à Jean Petit.
Qui est donc le script, un spectacle qui mélange théâtre et magie, époustouflant comme tu as pu nous le dire.
Bonjour, c'est Julie.
Et Julie,
sur Radio Comédie 2015. Comédie, le festival de théâtre qui réveille le Sud.
Et bah alors Chloé, toi aussi t'es partie voir le script à ce qui paraît. C'était super à Jean Petit avec Mélissa ?
Bah en fait je suis pas partie avec Mélissa, je suis plutôt partie un autre soir au Fangourin. Et franchement c'était waouh, complètement démentiel.
Et alors bah tu nous fais une chronique là tout de suite ?
Bah en fait non, je vais pas faire une chronique, je vais plutôt faire une chronique oui mais plus à l'écrit pour le journal Le Quotidien.
C'est quoi alors, comment est-ce que vous avez fait pour avoir eu un contact avec Le Quotidien ? Parce que c'est quand même un journal qui passe partout. Et donc du coup, il faut se renseigner. Comment est-ce que ça se fait que justement vous pouvez mettre vos chroniques là-dedans ? Parce que vous auriez pu les mettre aussi dans autre chose, dans un autre journal ou encore sur Internet.
Et ben, en fait, c'est grâce à notre prof de littérature et société qui a, elle, un contact avec le journal. Et du coup, elle a fait « Tiens, pourquoi on ne ferait pas une chronique dans le journal ?» pour le comédie. Et du coup, on a fait ouais, ce serait une bonne idée. Du coup, on va le faire. Et on va aussi créer un journal du lycée pour faire une rubrique pour le comédie. Et ce sera un numéro spécial comédie.
Bon, on est fiers de pouvoir lire tout ça, alors. Merci.
J'espère.
Comédie, le festival de théâtre qui réveille le Sud, du 27 avril au 6 mai.
Je suis votre auditeur.
Ok.
Je vous écoute.
Fermez les yeux.
Le Radio Fab Lab.
Chers auditeurs, maintenant, c'est le moment de la création radiophonique. Alors, aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir un duo de créateurs sonores qui s'appelle La Mécanique des Sons, de véritables horlogers du bruit.
Waouh !
Les poules, en picorant, tapent sur des surfaces différentes. Du bois, par exemple, du plastique, une bassine.
Les hackers de son.
Ces percussions-là, il faut les reprendre et en faire autre chose. Essayer d'en faire une musique. Une sorte de concert au poulailler. Je suis Jérôme Bailly, journaliste dans une radio associative du nord de la France qui s'appelle Radio Scarpe Sensée.
Radio Scarpe Sensée,
Scarpe Sensée. La plus locale des FM.
Tout son capturé est subjectif. Il y a toujours une patte personnelle dans les sons que j'enregistre et qui sont ensuite de toute façon transformés dans la machine, dans l'ordinateur. Donc de toute façon, il y a une empreinte personnelle et il y a quelque chose à raconter avec les sons. Mind Machines. traces sonores de ma télé, ma cafetière, ma machine à laver, mon mixeur de cuisine. J'ai donc pris ces sons avec mon enregistreur Nagra, mes micros branchés avec une technique qui s'appelle OFTF. J'ai tout samplé.
Aurélien Bloch, alors je suis musicien, bricoleur d'instruments bizarres. J'ai commencé à bricoler des instruments de musique en travaillant en ressourcerie, donc c'est une association qui collecte des encombrants, qui sauve des déchets de la benne, qui les remet en état. Et donc j'avais là un réservoir en fait de plein d'idées, et le fait d'avoir sous mes yeux tous ces déchets, ça m'a donné envie d'en faire quelque chose. Donc imaginez des hochets, des mobiles de bébés, des petits téléphones à roues qui font ring, tous ces choses là, on leur a donné une vie musicale, hein. C'est la toy musique. Alors Jérôme, c'est plutôt le son trouvé, moi c'est plutôt l'objet trouvé. Et quelque part, ma démarche s'apparente un petit peu à un acte de rébellion, parce qu'on vit dans une société qui jette, et ça me révolte. Donc j'ai le désir, en fait, de détourner, comme Marcel Duchamp on pouvait le faire avec son urinoir. J'ai envie de détourner ces objets, et de rebuts qu'ils sont, de leur redonner une valeur à les faire chanter. Donc par exemple, une boîte de Benko va devenir un banjo.
L'envie des horlogers du bruit aussi, c'est que je voyais Aurélien bricoler des sons, de faire de ce qu'on appelle la lutherie sauvage avec les objets qu'il trouve, et je me suis dit, bah tiens, moi, je trouve aussi des sons, enfin je capture des sons comme on peut capturer une image avec une photo, que c'est juste un moment donné dans le temps, le fait de capturer un son qui se reproduira peut-être plus jamais, d'une certaine façon. De ce fait-là, je me suis dit, on est un peu dans la même démarche de créer quelque chose d'original. De ce fait-là, on a commencé à essayer de mélanger les deux en même temps, les sons d'objets trouvés, qui sonnaient d'une façon très originale, et les sons capturés dans la nature, ou en ville, ou peu importe. Je sais pas si on peut dire que c'est une action militante, mais en tout cas, un engagement, on veut dire, un engagement sonore, on peut peut-être dire ça.
De grenouilles en détresse en fait enregistrées dans une mare en dessous d'un terril du Nord-Pas-de-Calais.
Et c'est vrai qu'au début les auditeurs n'étaient pas forcément là, mais après il y a tout un réseau qui a commencé à naître autour de ça, et des gens curieux, des oreilles curieuses comme je les appelle, qui ont commencé à écouter et se dire, mais tiens, il y a peut-être d'autres choses à aller entendre, à aller écouter. Road Trip Sounds, c'était dans la forêt de Marchiennes, dans le Nord. J'avais rencontré des fous du voyage, ils s'appellent les Mad Bugs. J'ai profité pour enregistrer le moteur, les portières, les klaxons, etc. Road Trip Sounds.
Comme un bruit qui court.
Comme un bruit qui court.
Sur France Inter.
Le Radio Fab Lab.
Bonjour, bienvenue pour la deuxième saison de Radio Comédie. Comment est la Réunion ?
Comédie, le festival de théâtre qui réveille le Sud, du 27 avril au 6 mai.
À l'occasion de la 8e édition du Festival Comédie, retrouvez-nous sur LFM, 95.8 sur Saint-Joseph.
Tous les jours à 17h sur LFM. Rediffusion le lendemain à midi.
Le Festival Comédie, c'est toute une équipe. Et tout de suite, une petite anecdote avec...
Monsieur Le Beauterre, qui est directeur commercial à Zéro.
Est-ce que vous avez une anecdote, justement, sur le comédie ?
Oui, ben justement, l'an passé, quand il y avait Clémentine Serrier qui était là, on s'est tous retrouvés, comme souvent le soir, au Carvegan, à Langevin, autour d'un cochon qui était magnifique et évidemment excellent. Et c'est l'occasion, toujours pareil, de rapprocher les artistes et les bénévoles et d'avoir ensemble une communauté qui se retrouve, qui fait la fête jusqu'à très tard le soir, souvent, mais qui participe aussi de l'ambiance du comédie quand on est spectateur, et c'est ce qu'on voit tous les jours. C'est-à-dire que la bonne ambiance du soir fait aussi la bonne ambiance du lendemain, parce qu'on a passé aussi un bon moment ensemble, après le stress, après le tract du festival. Évidemment, c'est important de bien recommencer la journée, et pour bien la commencer, ben, il faut aussi bien finir celle de la veille, et c'est ce que s'occupent à faire tous les soirs les bénévoles du comédie avec leurs artistes.
Fais-lui causer, tu vas voir s'il répond.
Le cochon là qui grille,
oui,
il cause plus.
Il est bien à point. Il commence à transpirer. commence à gagner un peu de saveur, donc bon cochon ce soir.
Et là, c'est la bête entière. Hein.
Oui, la bête entière, effectivement. C'est une vraie bête, 80 kg quand même. Il n'est pas cuit par le feu, mais il est cuit par la vapeur. C'est la vapeur, l'ardeur du feu qui va lui apporter toute cette couleur, toute cette beauté au niveau du cochon. Quoi. La couenne est bien grillée, bien. Elle sera vraiment croquante ce soir pour manger. Ça sera du gratin, quoi. En fait. Les personnes vont manger, vont se régaler, quoi, quand même. C'est un peu la marque du comédie, on va dire.
Chers éditeurs, cette émission se termine.
Merci d'avoir été à l'écoute et n'oubliez pas que demain, c'est la fin de la Radio Comédie.
On se retrouve donc pour une dernière émission
à 17h
sur LFM.
Bonne fin de journée.
Au revoir.